Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Nous parlerons de l'Ukraine et de la Syrie. Dans ce magazine, l'Église est engagée en première ligne en faveur d'une solution des crises majeures qui dominent l'actualité internationale. Nous parlerons également de deux fléaux qui suscitent une vive inquiétude en Italie, l'usure et la dépendance aux jeux d'argent. Une association catholique qui s'efforce de lutter contre ces phénomènes viendra à Rome ce mercredi pour demander le soutien du pape François. Malgré les menaces et les intimidations en Ukraine, les prêtres de l'Église gréco-catholique sont restés auprès des manifestants pour les inciter au calme et à la prière. Des prêtres orthodoxes sont également présents. Alors que la crise ukrainienne a connu de nombreux rebondissements au cours des dernières heures, une crise qui a exaspéré les relations entre l'Union européenne et la Russie. Ces jours derniers, le chef de l'Église gréco-catholique a demandé aux responsables politiques d'écouter la population et aux manifestants de ne pas se laisser emporter par leurs émotions. Jean-Baptiste Cocagne.
Sur la place Maïden, à Kiev, une tente fait office de chapelle œcuménique. Chaque journée commence par un office et de nombreux manifestants viennent s'y confesser. Bien que minoritaire, l'Église catholique de rite byzantin joue un rôle important dans la société ukrainienne. Interdite sur ordre de Staline en 1946, elle a été l'un des maillons les plus forts de la résistance contre le régime soviétique. Avec quelques 3000 prêtres et 800 séminaristes, elle vit aujourd'hui une véritable résurrection. La semaine dernière, le primat gréco-catholique a lancé un appel à l'arrêt des violences pour construire un État authentiquement libre et indépendant et pour réconcilier les cœurs. Pour l'archevêque major de Kiev, il faut à tout prix éviter un bain de sang. Il a demandé aux membres du clergé de veiller sur les âmes dont ils ont reçu la charge et de proclamer la paix de l'évangile du Christ. Mais une médiation internationale semble incontournable si l'on en croit l'évêque de l'éparchie ukrainienne de Paris. Selon Mgr Boris Gudziak, qui fustige sans détour la brutalité de la répression, le gouvernement ukrainien a perdu toute légitimité. Les Ukrainiens veulent selon lui briser leur lien avec un passé marqué par la peur et la soumission. Ils manifestent pour des principes et beaucoup d'entre eux sont soutenus par la prière et par leurs églises. Fin 2013, un conseil représentant toutes les confessions chrétiennes s'est rendu à Bruxelles. Il voulait justement demander l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
En Malaisie, les autorités civiles et religieuses ont lancé un appel au calme après l'attaque d'une église catholique. Redoutant une dégradation incontrôlée des relations entre musulmans et non-musulmans, ils invitent les catholiques à ne pas céder à l'esprit de vengeance. Cette attaque contre l'église de l'Assomption, qui n'a fait que des dégâts légers, intervient dans un climat tendu et marqué par la polémique sur l'usage par les chrétiens du mot Allah pour dire Dieu en malais. Dans un pays où les musulmans sont majoritaires et où la constitution établit une équivalence entre le fait d'être malais et celui d'appartenir à la religion musulmane, les minorités d'origine indienne et chinoise, ainsi que les non-malais de manière générale, éprouvent des difficultés grandissantes à faire respecter leurs droits, souligne l'agence Église d'Asie. La Fédération chrétienne de Malaisie a demandé aux chrétiens de se montrer sages et mesurés devant un acte haineux qui vise à provoquer le chaos et l'animosité à caractère ethnique. Il y a 6 mois, le 29 juillet 2013, on perdait les traces en Syrie du père jésuite Paolo Dall'Olio, entré clandestinement dans le pays. Ce mercredi, des messes seront célébrées pour lui dans plusieurs villes du monde, à Rome, Beyrouth, Berlin, Genève, Paris, Montréal ou encore Doha. Ce prêtre italien avait œuvré de nombreuses années en Syrie pour le dialogue interreligieux en fondant une communauté de prière dans un ancien monastère à Marmoussa, au nord de Damas. La journée de prière internationale se fera à l'initiative de la communauté Al-Khalil, fondée par le jésuite italien en Syrie avant la guerre civile. À la demande des amis et de la famille du père Dall'Olio, cette journée de solidarité avec toutes les personnes enlevées en Syrie commémorera l'activité humanitaire et apostolique du jésuite italien. Écoutez le nonce apostolique à Damas, Mgr Mario Zenari.
Ce n'est pas seulement le cas de père Paolo Dall'Olio, mais il y a des dizaines, on peut dire des centaines, on peut dire des milliers des personnes disparues, kidnappées pour une raison ou pour une autre. Et il faut aussi se souvenir que ça fait presque 9 mois de l'attentat l'enlèvement des évêques orthodoxes et on ne sait rien, comme pour le cas de Père Paolo. Et pour le sœur de Maloula, on a quelques contacts téléphoniques, on sait où elles sont relativement bien traitées, mais toujours pas libres de quitter le lieu. Il y a la typologie criminelle pour avoir de l'argent, des familles, des séquestrés. Il y a des raisons politiques pour des échanges peut-être de personnes. Et il y a aussi des raisons inconnues. Et ce sont des souffrances énormes pour les personnes même kidnappées et pour leurs familles, pour leurs communautés. Vraiment, c'est une souffrance qui va s'ajouter à d'autres graves souffrances, malheureusement.
C'était le nonce apostolique à Damas, Monseigneur Mario Zenari. En attendant, le siège de Homs se poursuit. La vieille ville, tenue par des troupes rebelles, est toujours encerclée par les forces du régime de Bachar el-Assad. Les premiers à en payer les conséquences sont les civils présents dans la vieille ville. Le père Ghassan Saoui, jésuite libanais, est en contact permanent avec la communauté chrétienne présente dans la partie assiégée de Homs. Il témoigne des conditions qui sont de plus en plus extrêmes pour les civils pris au piège de ce siège qui n'en finit pas.
Vraiment, les conditions de la vie sont très précaires et à peine ils arrivent à vivre et s'il y a d'aide humanitaire qui arrive vite, donc ils seront péris tous ensemble. Il y a des malades, certainement, il y a des gens qui souffrent là-dedans, qui attendent aussi l'aide médicale.
Vous êtes donc dans la partie qui n'est pas assiégée, vous avez donc, on va dire, des conditions de vie qui sont un petit peu meilleures que celles des personnes qui sont assiégées.
C'est vrai, quoique la distance entre notre zone, là où nous vivons, et l'ancienne ville de Homs, c'est presque moins de, d'un kilomètre, d'un seul kilomètre. Vous pouvez imaginer que c'est vraiment difficile. Nous aussi, nous souffrons de cette situation. Nous n'arrivons à rien faire pour nos amis là-bas, nos aimés vraiment. C'est difficile aussi de le vivre comme ça. On n'a que de prier pour eux et de prier toujours, chaque jour, pour que finalement cette situation trouve un issue, un bon issue. On a de l'espérance donc que toutes les choses finalement se résolvent d'une manière bonne.
Le jésuite libanais Ghassan Saoui, interrogé par Xavier Sartre. Une délégation du Conseil national contre l'usure en Italie participera à l'audience générale du pape François ce mercredi place Saint-Pierre. Les membres de ce conseil, coordonné par les évêques et qui porte le nom de Jean-Paul II, seront accompagnés de nombreuses personnes et familles à risque, prises en charge par les fondations catholiques, ainsi que par les victimes d'usuriers menacées par le crime organisé. La délégation emmènera également avec elle plusieurs anciennes victimes des jeux de hasard et d'argent, libérées de leur addiction après des années de thérapie et de parcours de formation. Le Conseil national anti-usure a choisi de faire le déplacement jusqu'à Rome pour recevoir le réconfort et le soutien du Saint-Père, car la crise économique a aggravé ce fléau en Italie. Bernard de Cotigny.
Dans ce pays, le blanchiment, l'usure et le racket figurent parmi les activités principales de la mafia. Le crime organisé a en effet profité de la crise pour développer un business florissant. Les prêts crapuleux, notamment au détriment des petits commerçants, les prêts abusifs, assortis de taux d'intérêt très élevés, ont provoqué aussi la fermeture de nombreuses entreprises et la disparition de milliers d'emplois. Les victimes se comptent par dizaines de milliers. La lutte contre la dépendance aux jeux d'argent est également une urgence en Italie. Ce pays représente le plus gros marché des jeux d'argent du continent européen, le quatrième à l'échelle mondiale. À la faveur de la morosité économique et du laxisme politique, les machines à sous se multiplient dans les bars, les tabacs, les stations essence et centres commerciaux. Des centaines de milliers de ces machines sont illégales et entrent en concurrence avec les loteries nationales et les courses de chevaux. Or, cette addiction a des conséquences graves. Dépression, endettement, violence domestique, famille brisée. Les Italiens sont devenus tellement dépendants que l'on s'inquiète du désastre social et économique que cette passion est en train de provoquer. Or, les efforts déployés pour freiner la pratique du jeu entrent en conflit direct avec le gouvernement national, qui dépend de plus en plus des revenus de l'industrie du jeu, d'où l'engagement de l'Église catholique et l'inquiétude de la délégation attendue mercredi à Rome.
Après l'audience générale, les quelques 3000 représentants du Conseil national anti-usure se retrouveront à 15h dans la basilique Saint-Pierre pour assister à une concélébration eucharistique. L'aumônier du pape François, Mgr Konrad Krajewski, a célébré ce mardi à Rome les obsèques d'un sans-abri victime d'une violente agression. La messe s'est déroulée à midi en l'église Saint-Stanislas des Polonais. Michal, la victime, était âgé de 31 ans. Il est mort à la polyclinique Gemelli de Rome à la suite d'une longue agonie. Sa famille a autorisé le don de ses organes. Cela a permis de sauver 4 autres vies humaines. Plusieurs SDF ont assisté aux funérailles de Michal. Monseigneur Aldo Giordano a passé de nombreuses années au cœur de l'Europe en tant que secrétaire général du Conseil des conférences épiscopales d'Europe et observateur permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il a été nommé par le pape François nonce apostolique au Venezuela. Avant son départ, il a publié l'ouvrage « Une autre Europe est possible, idéaux chrétiens et perspectives pour le vieux continent » dans lequel il évoque les expériences et les réflexions qu'il a pu faire au service de l'Église en Europe.
L'Europe aujourd'hui, il me semble, risque de se fermer, de se bloquer dans une idée de liberté de type individualiste. Une liberté centrée sur l'ego, et cela rend l'Europe fatiguée, incapable de prendre au sérieux la question de l'autre. Nous sommes très préoccupés de défendre notre liberté individualiste. Nous sommes préoccupés de décider tout, décider la valeur de la vie, décider aussi comme faire les enfants, mais nous devons, je crois, maintenant découvrir que est essentiel à la liberté le rapport avec l'autre comme prochain. Et d'autre côté, c'est une Europe qui doit retrouver son rapport avec Dieu même. Parce que je crois que la question culturelle principale de l'Europe, c'est l'oubli de Dieu. C'est une vie dans la solitude. Et j'ai trouvé beaucoup de solitude dans mes voyages pour les sentiers de l'Europe. Parce que l'homme, sans une référence à la transcendance, sans la référence à un père, à la fin et dans la solitude, doit décider tout, les valeurs, doit décider la vérité, doit décider qu'est-ce que c'est le bien et le mal, tout doit décider seul.
Donc un repli identitaire, mais également un repli communautaire?
Oui, parce que je crois que l'Europe aujourd'hui doit retrouver sa position dans le monde, dans la question géopolitique mondiale. Et elle reste faible devant les questions qui sont proposées par les grandes nations comme la Chine ou l'Inde ou aux questions de l'Afrique, comme être présente dans la question de la République centrafricaine, dans l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, devant la question de la Syrie, de l'Égypte, etc. J'ai l'impression que la position est trop faible parce que l'Europe est trop concentrée sur soi-même. Notre pape nous encourage l'humanité à trouver des autres moyens pour régler les rapports entre les peuples qui ne sont pas des moyens de violence. Je crois que l'Europe, si elle est fidèle à sa grande tradition, pourrait contribuer vraiment pour trouver des sentiers avec une nouveauté. Et alors je pense à une Europe qui peut devenir capable d'assumer la responsabilité des grands problèmes de l'humanité. Je pense à l'injustice, je pense à la faim, je pense à l'utilisation de la violence pour régler les rapports entre les peuples.
De nombreux papes, et en particulier Benoît XVI, ont rappelé l'importance des racines chrétiennes de l'Europe. Ce message a-t-il été entendu par les leaders européens?
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand nous parlons du christianisme, il y a une certaine ignorance du christianisme. Pendant le débat sur les racines de l'Europe, il y avait quelques-uns qui avaient la peur que citer les racines chrétiennes, c'est un danger pour la laïcité. Mais nous sommes convaincus que la vraie laïcité a été fondée par le christianisme. Pour des autres, citer le christianisme était un danger pour nos frères de l'islam. Mais un Dieu qui donne la vie pour l'autre, pour tous les hommes, qu'on peut être un danger pour les amis de l'islam. Ou pour des autres, c'était une question de pouvoir. Mais le Christ, il n'a pas cherché le pouvoir, il a cherché le service. Alors cela pour dire qu'on parle de christianisme, mais le contenu auquel on pense, vraiment le contenu authentique du christianisme. Je crois que si nous sommes capables aujourd'hui de témoigner vraiment comme notre pape François nous exhorte et nous indique le chemin, nous pouvons vraiment de nouveau rendre attractif le christianisme pour notre Europe.
Vous avez pendant près d'un quart de siècle été un observateur privilégié du continent européen. Vous avez assisté à d'importants débats qui portaient sur des questions telles que la vie, la mort, la dignité humaine, des questions à la fois anthropologiques et sociales. Quel est le thème qui a été le plus emblématique ?
Pour moi, le débat plus difficile dans cette année, c'était le débat sur la famille et la filiation. Que nous venons d'une grande tradition qui est fondée sur la richesse de la distinction homme et femme. Et le rapport homme et femme, c'est à la base de la famille, et c'est aussi à la base, à l'origine de la vie humaine. Maintenant, il y a des propositions, des idées, des visions qui touchent cette question. Alors la question, c'est très délicat. Je crois que c'est le temps pour de nouveau témoigner vraiment la richesse de la diversité homme et femme, qui est la richesse originaire de l'anthropologie, de la personne humaine, et vraiment rester dans le dessein que Dieu a voulu pour l'humanité. Et je crois que cette unité de la valeur indiscutible de la personne humaine, c'est un thème que nous devons porter comme contribution précieuse dans la société, dans le débat actuel.
L'Europe s'est-elle, selon vous, véritablement éloignée de son identité, de l'esprit voulu par ses pères fondateurs ?
Je pense que quand il y a eu l'idée originaire de l'Europe avec les pères fondateurs, c'était un moment de grâce, c'était un moment de lumière. Et quelquefois, pendant le chemin, on perd un peu la lumière, mais je crois que c'est possible de retourner à la lumière. Je ne suis pas pessimiste parce que j'ai rencontré beaucoup de laboratoires, beaucoup d'expériences qu'il y a en Europe qui viennent de la lumière de l'Évangile, qui viennent de la lumière du christianisme, où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont décidé la propre vie pour l'autre, pour les personnes qui vivent au marge de la société ou qui sont blessées de la vie. Et cela existe déjà, cette Europe. Je crois qu'il faut que cette semence devienne grande et devienne des arbres et soit aussi reconnue à la société. Et je crois que aussi le témoignage de sainteté des pères fondateurs reste vivante. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité de retourner à mettre cette lumière sur les sentiers, sur les chemins de l'Europe.
Monseigneur Aldo Giordano, nouveau nonce apostolique au Venezuela, interrogé par Hélène Destombes. Les académies pontificales ont tenu ce mardi soir à Rome leur 18e séance publique sous les auspices du Conseil pontifical de la culture. Convoquée le jour de la mémoire liturgique de saint Thomas d'Aquin, cette session avait pour thème « Oculata, fides, la foi qui voit, qui a des yeux de chair », la célèbre formule utilisée par saint Thomas en parlant des apôtres et reprise par le pape François dans sa première encyclique « Lumen Fidei », lire la réalité avec les yeux du Christ. La réflexion s'est concentrée également sur la relation entre Lumen Fidei, justement, et l'exhortation apostolique du pape François Evangelii Gaudium. Dans un message aux participants, le Saint-Père explique lui-même que son objectif, en citant le docteur Angelicus, était d'encourager la réflexion sur la dimension lumineuse de la foi et sur le lien entre foi et vérité qui doit être approfondi, a-t-il dit, non seulement avec les yeux de l'esprit, mais aussi avec ceux du cœur, c'est-à-dire de l'amour. Or, cela a des conséquences importantes, aussi bien pour les croyants que pour les théologiens. Dans son exhortation apostolique, du reste, sur l'annonce de l'Évangile dans le monde actuel, le pape François brosse le profil d'une Église qui, selon lui, doit être en chemin et entièrement missionnaire. Et dans son message aux académiciens, il affirme que les académies pontificales sont elles aussi appelées à cette transformation, à se concentrer sur l'essentiel, à savoir sur le service de la mission de toute l'Église. Le prix des académies pontificales remis par le secrétaire d'État, Mgr Pietro Parolin, récompensé cette année la recherche théologique et l'étude des œuvres de saint Thomas d'Aquin. Et puis sachez que le pape François, nommé secrétaire du Collège Cardinalis, un prélat du sud du monde, Mgr Ilson de Jesus Montanari, qu'il avait lui-même nommé au mois d'octobre secrétaire, c'est-à-dire numéro 2, de l'importante congrégation pour les évêques dirigée par le cardinal québécois Marc Ouellet. Ce prélat brésilien travaille pour le Saint-Siège depuis 2008. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais n'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet site à l'adresse www.radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.